VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 15h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. En RDC, les autorités ont récupéré 3 des 34 prisonniers qui s'étaient évadés dimanche matin de la prison centrale de Mwenga, province du Sud Kivu, dans l'est du pays. Selon Désiré Massombouko, administrateur du territoire de Mwenga situé à 130 km de Bukavu, le chef-lieu provincial, les 34 détenus, dont 27 condamnés pour viol et d'autres pour vol et assassinat, avaient pris le large après avoir troué, sous une forte pluie, le mur de la prison avec des barres de fer. Les conditions carcérales sont déplorables à cause du manque de nourriture et de médicaments qui ne sont plus fournis par l'État, a déclaré l'administrateur Massombouko à l'AFP. Pour sa part, l'influent chef coutumier local Mwami Kalenga Riziki qualifie les évadés d'extrêmement dangereux et il dit craindre une explosion de l'insécurité dans la région dans les jours à venir. Début juin, dans la province voisine du Nord Kivu, plus de 900 prisonniers s'étaient évadés de la prison de la ville de Beni après une attaque lancée par des inconnus. Burundi, après la mort de 39 réfugiés burundais, dont des enfants et des femmes, à la mi-septembre à Kamanyola, au sud Kivu, en RDC, une certaine incompréhension règne du côté burundais. Beaucoup de Burundais réclament l'ouverture d'une enquête et pratiquement tout le monde condamne cette tuerie qualifiée de sauvage. Les Nations Unies et l'UHCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, soulignent eux aussi l'importance de mener une enquête sur cette tragédie. De Bujumbura, notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Vendredi 15 septembre 2017, dans l'après-midi, à Kamanyola, au sud Kivu, l'armée congolaise tue 39 réfugiés burundais qui demandaient la libération de 4 des leurs. Le porte-parole du gouverneur du sud Kivu affirme que ces Burundais ont été tués dans des échauffourées avec la police. Bonhomme de Burundais, interrogé par la VOA Afrique, ne comprennent pas comment et pourquoi de telles sauvageries existent dans ce monde et condamnent énergiquement ces tueries.
Quand il y a des gens qui sont tués, c'est pas bien. Chaque Burundais devait se lever et dire non. Il est vraiment inacceptable que des gens qui devaient être protégés soient massacrés de cette manière. Il faut qu'il y ait une enquête pour savoir réellement ce qui s'est passé et que les responsables soient punis.
Arsène Dimouvandi, tout en condamnant cet acte, ne comprend pas comment des réfugiés burundais peuvent être tués par des éléments de l'armée congolaise.
Nous déplorons la mort des 37 Burundais. Pour moi donc, la solution n'était pas vraiment de les tuer ou les tirer par balles réelles. Ils auraient probablement usé d'autres moyens pour maintenir ou contenir cette manifestation si, bien évidemment, c'était une manifestation ou à la limite utiliser les gaz lacrymogènes. Il faut la lumière pour savoir pourquoi ces gens sont morts.
Ce père de plusieurs enfants, tout en condamnant de tels agissements, explique qu'il y a des similitudes avec ce qui s'est passé au Burundi il y a quelques années.
Est-ce qu'on les a tués parce que ce sont des réfugiés ou bien on les a tués parce que la RDC contre l'adepte de ces pays? Il y a des cas pareils, similaires qui se sont passés au Burundi. C'était à Rukago. Il y a eu des tueries, c'était autour de la même femme. Puis alors les gens se sont insurgés contre les forces de l'ordre. Le fait que le même cas est arrivé au Burundi, je comprends moi personnellement pourquoi c'est arrivé aussi au Congo. C'était des policiers. Au Burundi, c'était des policiers. La population s'est insurgée contre les policiers. Et au Congo aussi. Au Burundi, on les a tués. Au Congo, on les a tués. On n'a aucune raison de tuer les gens. Même au Burundi, moi aussi je condamne parce que nulle part au monde on ne trouvera des gens qui soutiennent qu'on tue les gens. Il y a d'autres façons de régler les choses sans faire des tueries.
Si l'incompréhension règne parmi les Burundais de la capitale, les HCR et les Nations Unies ont demandé qu'une enquête indépendante soit menée pour connaître les mobiles de ces tueries. Entre temps, des réfugiés burundais urbains du Rwanda ont fait avant-hier une prière au centre Christus de Remera au Rwanda en mémoire des victimes et de plus de 100 blessés. Ils ont également prié pour la paix au Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Togo, l'opposition appelle à une journée togomore vendredi, tout en annulant ses marches prévues demain mardi, mercredi et jeudi, pour se consacrer, dit-elle, à la visite aux populations éprouvées par les répressions des manifestations de la semaine dernière. C'est ce qui ressort du communiqué publié dans la nuit de dimanche à lundi, dans lequel les 14 partis de l'opposition togolaise invitent les populations à cesser vendredi toute activité professionnelle et économique et à se recueillir à la mémoire de leurs martyrs. L'opposition exhorte aussi ses partisans à rester mobilisés pour les actions décisives qu'elle annoncera pour la semaine du 2 octobre 2017. Rappelons qu'au moins 4 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées lors des manifestations de la semaine dernière organisées à l'appel du Parti national panafricain PNP, rejoint en septembre par d'autres partis de l'opposition. Les opposants réclament le départ du président Fornia Singbe du pouvoir. Au Mali, 3 casques bleus ont été tués, 5 autres grièvement blessés dans la région de Gaoto dimanche matin lorsqu'un véhicule de la MINUSMA, la mission de l'ONU sur place, a heurté un engin explosif. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Les transporteurs sur les routes de Gao sont les premiers à se plaindre du nouveau mode opératoire des djihadistes et autres terroristes qui sont en train de mettre des mines et des engins explosifs sur les différentes routes. Des engins explosifs qui sont aujourd'hui à la base de plusieurs attaques. C'est ce qui est arrivé à un véhicule logistique de la MINUSMA qui a heurté un engin explosif dans la localité de Kobe, à 35 km de Gao sur la route menant à Afoud. Ce sont des casques bleus qui escortaient un convoi sur l'axe Anefif-Gao. Le bilan est de 3 casques bleus tués et 5 blessés, dont certains très graves, qui ont été évacués sur la ville de Gao. Sur le coup, une force d'intervention rapide a immédiatement été déployée sur les lieux pour sécuriser le périmètre et permettre la prise en charge des victimes. En tout cas, les attaques terroristes ont doublé d'intensité ces derniers jours dans les régions nord du Mali. Avant cette attaque matinale à Gao, il y a eu en milieu de semaine des obus lancés sur le camp de la MINUSMA à Kidal. Une triple attaque à la roquette revendiquée par le groupe de djihadistes maliens Yad Agali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Nigeria, les procès de 1600 membres présumés du groupe djihadiste nigérien Boko Haram détenus dans des camps militaires à travers le pays commenceront le mois prochain. C'est ce qu'a annoncé le ministère nigérien de la Justice dans un communiqué dimanche. Le ministre de la Justice, Abubakar Malami, a confié ces dossiers à plusieurs procureurs et des avocats seront fournis aux suspects par le conseil d'aide juridique. Pour parler de l'enjeu de ces procès, Timothée Nolangma a contacté le professeur Oudou Ayouba, enseignant de sciences politiques à l'université de Zaria.
Les Nigériens attendaient ça depuis très longtemps pour qu'on sache vraiment ceux qui sont derrière Boko Haram. Il y a eu des accusations, il y a eu des soupçons, mais on ne sait pas exactement ceux qui sont derrière. Et tout le monde ici espère que ce jugement devant les tribunaux donnera des réponses à ces questions.
On parle de 1600 militants présumés de Boko Haram qui seront jugés. Qu'est-ce que cela représente comme défi au plan de la sécurité?
C'est vrai que c'est un grand nombre, 1600, c'est même plus. Bon, il y a ceux qui ont été arrêtés lors des combats et puis ceux qui ont été arrêtés dans les villes, les soutiens au Boko Haram, beaucoup de monde, personne n'a jamais été jugé. Il y a aussi des politiciens qui sont soupçonnés d'avoir aidé Boko Haram.
Le professeur Oudou Ayouba, enseignant de sciences politiques à l'université de Zaria, dans l'état de Kaduna, dans le nord du Nigeria. Relations États-Unis-Afrique maintenant, Washington a élargi dimanche son décret migratoire à 3 nouveaux pays. En Afrique, c'est le Tchad qui a été ajouté à la liste des nations dont les ressortissants sont interdits d'accès au territoire américain. Par contre, le Soudan en a été retiré. Jean-Roger Bion.
Le Tchad, la Corée du Nord et le Venezuela ont été intégrés à la liste des pays visés par le décret migratoire américain pour des manquements à la sécurité sur leurs voyageurs et un manque de coopération avec Washington. Le Tchad, bien qu'il soit un partenaire important des États-Unis, dans la lutte contre le terrorisme a été ajouté, explique le décret, par la présence sur son sol de différents groupes djihadistes comme l'organisation État islamique, Boko Haram ou Al-Qaïda au Maghreb islamique. Par ailleurs, N'Djamena ne partagerait pas de manière adéquate les informations concernant la sécurité du public et le terrorisme. Les mesures de restriction sont différentes selon les pays. Tous les citoyens du Tchad et de la Corée du Nord sont interdits d'accès au territoire américain, alors que l'interdiction se limite aux membres d'une longue liste d'instances gouvernementales vénézuéliennes et à leurs familles. Le Soudan, l'un des 6 pays musulmans visés par le précédent décret, a été retiré de la liste. Le nouveau texte, qui entrera en vigueur le 18 octobre pour les trois nouveaux pays, interdit ou limite l'entrée aux États-Unis des ressortissants étrangers de 8 pays au total, avec l'Iran, la Libye, la Syrie, la Somalie et le Yémen.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.